Bonjour à tous. Lors de mon dernier podcast, qui était consacré à la masculinité au travers de l'analogie de la Belle et la Bête, où j'expliquais un peu ce qu'était un homme, et pour résumer, l'homme au travers de l'analogie de la Belle et la Bête est celui qui est capable de toute la violence du monde, mais qui jamais n'exercera sa violence. Et à la fin de ce podcast, j'avais demandé à mes auditeurs de m'envoyer leurs remarques, leurs questions, leurs idées, parce que j'abordais la masculinité au travers d'un seul angle. Et je suis bien sûr conscient qu'il y a plusieurs autres façons et autres éléments qui pourraient entrer dans la définition de la masculinité. L'un d'entre vous m'a demandé d'aborder la question de l'indépendance financière et de l'indépendance émotionnelle. Pour être un homme et pour avancer librement dans la vie, il faut être indépendant. Indépendant émotionnellement et indépendant financièrement. Indépendant émotionnellement veut dire que vous êtes prêt à partir à tout moment. Vous pouvez partager votre vie avec quelqu'un, vous pouvez avoir des copines, une femme, peu importe, hein. Moi j'ai une opinion sur le sujet, mais vous avez le droit de vivre votre vie telle que vous le sentez. Mais cette relation ne marchera que si vous êtes prêt à partir à tout moment. Si votre partenaire femme sait que vous êtes dépendant, que vous êtes soumis, que vous n'avez pas d'autres options dans la vie, un, elle va en profiter et vous écraser. Deux, elle va perdre de l'intérêt et de l'excitation pour vous parce qu'elle ne respectera que l'homme qu'elle admire. Et c'est pour ça que si elle sent que vous êtes avec elle, mais que vous avez d'autres options, et si elle franchit la ligne rouge, vous êtes prêt à partir, elle vous regardera sous un autre angle. Donc l'homme respectable dans l'interaction, l'homme dominant, c'est celui qui à tout moment est prêt à partir. Si dans ta relation t'as établi le fait très clair que si on te casse les couilles, si on t'empêche d'avancer dans tes projets, t'es prêt à partir, si t'as communiqué ce fait-là, t'as de très grandes chances pour que ta relation réussisse. Et il faut savoir aussi, et ce que je conseille, c'est de ne jamais, 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 au grand jamais, changer ses projets pour une femme. La femme, telle qu'on la définissait il y a plusieurs années, c'était la compagne. Elle n'était pas au centre de ta vie, c'était une compagne, elle t'accompagne dans ta vie. T'as tes projets, t'as tes buts supérieurs, t'as les choses que tu veux faire pour t'accomplir en tant qu'homme. Et à côté, t'as ta compagne qui vit sa vie et qui va t'accompagner dans cette mission. Si à un moment tu n'as plus de mission, tu n'as plus de but supérieur, tu n'as plus d'objectif, et cette gonzesse à côté de toi devient le centre de ta vie, devient le seul truc que tu regardes, auquel tu crois, eh bien, tu es en train de passer à côté de ta vie, tu es en train de passer à côté de ta masculinité, tu es en train de passer à côté de ta vie d'homme. Parce qu'un jour, tu le regretteras. Une femme est avec toi pour un certain temps, peut-être pour la vie, peut-être qu'un jour elle partira. Si jamais tu as changé tes projets pour une greluche qui se barre, crois-moi, tu vas le regretter pour le restant de tes jours. Je vais prendre un exemple. Tu avais envie de partir en Australie pour faire une année, voyager, découvrir le pays, te balader, travailler. Et t'as ta gonzesse qui t'a dit, si tu pars, c'est terminé. Si tu me laisses, si tu pars, c'est fini, je te plaque. Si jamais à ce moment-là, t'as changé ton projet pour cette gonzesse, je peux te dire que tu vas le regretter jusqu'à la fin de tes jours. Et j'en parlais justement avec un de mes collègues récemment. Pour les Anglais, c'est pratiquement un baptême obligatoire. Quand t'es jeune, dans ta vingtaine, aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est un peu le baptême du feu. Tu voyages, tu découvres le pays, t'es loin de ta famille, t'es tout seul. C'est un peu une expérience, peut-être un peu comme l'Erasmus en Europe, mais c'est un peu plus que ça. C'est vraiment la découverte d'un nouveau monde, loin de tes parents. Et c'est quelque chose d'important dans la construction d'un être que de partir jeune à l'aventure et d'explorer le monde. Et il m'a dit qu'au moment où il allait le faire, sa copine lui a sorti « Si tu pars, je te quitte ». Et qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre malheureux? Eh bien, il n'est pas parti en Australie et il est resté avec sa copine. Et devinez quoi? Sa copine, forcément, l'a quitté. Elle est partie avec un autre homme. Déjà, elle réalisait pas qu'à l'époque, elle le testait. Quand elle lui dit « Tu vas en Australie, je te quitte », elle est en train de tester le bonhomme. Elle est en train de voir ce qu'il a dans les couilles. Le mec, elle lui sort une larme. Il a abandonné ses projets. Elle s'est dit « Ça, c'est une larve ». Donc forcément, en faisant ça, il aurait eu peut-être plus de chances de la garder, de la récupérer, s'il avait fait le bonhomme et s'il était parti. En lui disant « Écoute, j'ai des sentiments pour toi, j'ai de l'estime pour toi, mais ce voyage, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Donc si t'es pas prête à m'attendre, eh bien tant pis, Ainsi soit-il. S'il avait fait ça, non seulement il serait allé en Australie, mais en plus, je peux te dire qu'il y a des chances qu'il la récupère parce qu'elle aurait compris qu'elle a affaire à un voyageur, à un explorateur, à un bonhomme, quoi. Et ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, le mec a 50 ans, il est beaucoup plus âgé que moi, et il me ressort ça à chaque fois. Dès qu'on sort boire un coup avec les collègues, qu'il est un peu bourré, il me ressort tous les trucs qu'il a ratés quand il était jeune. Parce que, eh bien, il n'a pas osé le faire, parce qu'il s'est fait manipuler par des gonzesses, parce qu'il était émotionnellement fragile et il est passé à côté de sa vie. Donc, je vous dis, les mecs, non, ne laissez jamais une femme vous détourner de vos projets, parce que un jour, tu vas le regretter. Un, tu passes pour une larve et si tu crois qu'en faisant ça, tu vas garder la gonzesse, tu te trompes complètement. Et deux, tu vas ressasser ces trucs-là toute ta vie, les chances que t'as pour explorer le monde, pour voyager, t'en as pas tout le temps. Dès que t'atteins la trentaine, tu commences à travailler, tu prends un crédit, t'achètes ta maison, ton machin. T'as plus le temps de faire des trucs du genre partir en Australie ou en Nouvelle-Zélande pendant un an ou deux, explorer le monde. Donc, en fait, t'as une petite fenêtre dans ta vie où t'as la chance de déconner. Et cette fenêtre, en général, elle est entre 20 et 28 ans, 20 et 29 ans, où tu peux encore faire des conneries. Les gens t'en veulent pas. Tu vois, on dit il est jeune. Quand tu fais des conneries à 40 ans, on dit plus il est jeune. Tu vois, on attend autre chose de toi à 40 ans. On se dit tu commences à avoir des responsabilités, tu deviens un mec sérieux, que ce soit au travail, dans ta vie privée, la société attend des choses de toi. Donc on te pardonne moins les choses. Tu vois, si tu plaques tout à 40 ans et tu te dis ouais, je vais aller faire le tour du monde, je vais aller en Australie, machin, les gens ils vont un peu se dire ce mec-là, il y a des trucs qui vont pas, tu vois. Je parle pas du mec qui, dans le cadre du business ou par exemple si tu es un surfeur de haut niveau et c'est vraiment ton métier d'aller faire du surf et à 37, 40, 45 ans, tu peux encore prendre ta planche et aller surfer les vagues dans le monde entier. C'est ton métier, tu vois. Mais l'homme du quotidien qui commence à faire le fou, on se dit bon, il est pas sérieux, qu'est-ce qu'il fait? Bref. On attend autre chose de toi. Mais à 21, 22, 23, 24 ans, tu peux rater des trucs, tu peux rater l'université, tu peux faire des erreurs, tu peux te tromper, tu peux perdre de l'argent, tu peux te faire avoir. On se dit, mec, t'as 22, 23 ans, même si tu te casses la gueule, t'as 10 ans pour te refaire. Tu vois, tu perds tout à 22 ou à 23 ans, t'as entre 23 et 33 ans pour reprendre ce que t'as perdu, c'est possible. Tu perds tout à 45 ans, on va pas te dire t'as la vie devant toi pour te refaire, tu vois. À 45 ans, t'es à 15 ans de la retraite. C'est pas énorme pour refaire ta vie. Donc, il faut profiter de ces moments-là quand tu les as et ne laisse personne te détourner de tes projets. Donc, quelle que soit l'estime, quelle que soit l'affection, et utilisons même les grands mots, quel que soit l'amour que tu as pour ta compagne ou pour la femme avec qui tu es ou pour la fille avec qui tu es si t'es un peu plus jeune, ne change pas tes projets. Même si tu as de l'affection pour elle, tu peux très bien lui dire voilà ce que je veux faire, voilà mes objectifs, mais ne change jamais ta trajectoire pour elle. J'ai perdu des gonzesses quand j'ai quitté la Normandie pour aller à Paris, j'ai perdu des gonzesses quand j'ai quitté Paris pour aller à Londres, et je perdrai des gonzesses si je quitte Londres pour aller ailleurs. J'ai exécuté mes projets comme j'ai voulu le faire, et jamais, au grand jamais, je serai resté en Normandie parce qu'il y a une gonzesse qui vit là-bas et qui aurait aimé que je reste à côté d'elle. Je ne serai jamais resté à Paris parce qu'il y a une gonzesse que j'ai rencontrée, et Dieu sait que j'en ai rencontré, qui aurait aimé que je reste là-bas, que je lui fasse deux gamins. Je n'aurais jamais fait ça parce que je sais que je l'aurais regretté. À un certain âge, je me serais dit, merde, merde, t'avais la chance d'aller à Londres et de tenter une nouvelle expérience, t'es resté avec cette gonzesse, peut-être qu'elle va finir par me plaquer, et du coup j'aurais tout perdu, j'aurais pas réalisé le projet et j'aurais perdu la meuf. Et même si elle te plaque pas et que tu restes avec elle, t'auras toujours le soir où tu seras en train de manger des chips avec elle sur le canapé, quand elle aura pris 20 kilos, qu'elle n'en aura plus rien à foutre de ta gueule et que tu seras en train de te laisser glisser vers la retraite dans une morosité pas possible, dans un coin de ta tête, tu vas te repasser toutes ces images de tous les voyages que tu aurais pu faire, de toutes les meufs que tu aurais pu baiser, de toutes les expériences que tu aurais pu faire, et tu vas te dire, mais putain de bon sang de merde, mais pourquoi je les ai pas fait, quoi? Pourquoi je les ai pas fait? Et le pire pour un homme, c'est ça. Le pire pour un homme, c'est d'arriver à 50 ans et d'avoir des regrets pour les culs que t'as pas baisés, des regrets pour les voyages que t'as pas fait, des regrets pour les expériences que t'as pas fait. On est tous là pour un court laps de temps sur Terre. Et le pire quand t'atteins la cinquantaine, c'est le regret. Donc, vis aujourd'hui pour ne plus avoir de regrets ou pour ne pas avoir de regrets et ne change jamais tes projets pour une gonzesse. Ça, c'est l'une des règles essentielles que tout homme doit connaître et doit suivre. En deux, je vous parlerai de l'indépendance économique, l'indépendance financière. Tout comme l'indépendance émotionnelle, tu ne peux pas avancer dans la vie si tu n'as pas d'indépendance financière. Et je vais commencer ce point en racontant une anecdote qui m'était arrivée au travail il n'y a pas si longtemps que ça. On avait un mec qui était assez haut dans la hiérarchie. C'était l'homme qui s'occupait de toute la partie design pour tout le groupe. Alors c'est un groupe qui pèse plusieurs milliards de livres sterling et c'est lui qui s'occupait de l'embauche, qui s'occupait des contrats des consultants, donc il s'occupait de mon contrat aussi, et qui s'occupait de tout ce qu'il y avait à faire avec la gestion des contrats au niveau du groupe tout entier, pas uniquement au niveau d'un projet. Donc quelqu'un d'assez important dans la boîte. Et il avait la réputation d'être extrêmement agressif. Ce mec-là va te rentrer dedans comme un malpropre systématiquement. Il fallait avoir les reins solides. Et jusque-là, je n'avais pas trop affaire à lui. Je faisais mon petit truc avec le projet sur lequel je travaillais. Je dialoguais avec le directeur de projet. Et j'avais pas trop d'interaction avec le sommet de la hiérarchie. C'était pas trop mon truc dans le poste que j'occupais. Et ce mec-là avait pris pour cible quelqu'un sur mon projet, et il s'était mis à le harceler systématiquement au téléphone, et le but c'était de le virer. Je pense qu'il voulait le virer, et il s'est dit, comme le virer ça va être compliqué, ça fait longtemps qu'il est là, ça va nous coûter cher, il s'est dit, je vais le harceler jusqu'à ce qu'il démissionne. Et il passait son temps à l'appeler, il l'appelait à 7h30 du matin pour l'engueuler, pour lui dire qu'il avait mal fait quelque chose, pour lui dire qu'il avait mal fait son rapport, qu'il avait mal fait son compte rendu. Et moi j'étais à côté de lui, donc je voyais ses coups de fil arriver. Et je voyais ce pauvre mec être sous pression. Et la raison pour laquelle ce mec-là était sous pression, c'est que il était marié, il avait deux gamins, il avait acheté sa maison, il avait un gros crédit sur la maison, un gros mortgage, comme on dit ici en Angleterre, et il avait acheté une voiture, donc il avait aussi un crédit voiture. Donc le mec était asphyxié de toutes parts, et cet emploi, pour lui, il fallait qu'il le garde, quoi. Donc au bout de plusieurs mois de harcèlement, eh bien, il arrête de venir. Il arrête de venir et il appelle les ressources humaines en disant je fais une dépression et je ne peux plus venir travailler. Il avait envoyé un certificat médical pour burn-out, pour dire qu'il ne pouvait plus bosser. Il envoie ça aux ressources humaines. Forcément, les ressources humaines s'intéressent à ça et ils se disent, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Les cas de burn-out, de déprime, de harcèlement moral sont assez courants au travail et donc ils s'inquiètent toujours quand il y a un truc qui se passe. Et donc ils ont dit à ce mec-là, écoute, prends quelques jours, prends même quelques semaines, repose-toi, arrête-toi, ne viens pas, c'est pas grave, ils ont été super indulgents avec lui. Mais pour le mec de la boîte qui le harcelait, c'était en partie gagné parce qu'il s'est dit, bon, je l'ai mis sur le carreau et peut-être qu'il ne reviendra jamais, peut-être qu'il va finir par chercher un autre taf, qu'il va démissionner. Donc c'était sa stratégie pour mettre les gens sur le carreau. Le problème, et c'est là où l'histoire devient intéressante, c'est que comme ce mec-là s'est barré, celui qui est tombé en dépression, qui est parti en dépression, s'est barré, il fallait quelqu'un pour reprendre son taf. Et forcément, j'étais celui qui connaissait mieux le projet pour pouvoir reprendre les éléments sur lesquels il travaillait. Donc je commence à reprendre ses derniers comptes rendus, je commence à reprendre ses derniers rapports, tous les trucs sur lesquels il avait travaillé, et je me mets à travailler dessus. Et là, j'ai ce fameux mec haut placé dans la hiérarchie qui du coup commence à m'appeler parce que je reprenais les affaires du mec qui était plus là. Il m'appelle en essayant de me parler comme il parlait au mec d'avant. Tu sais, le petit salarié avec les deux gamins, la bagnole, la maison, le machin qui était complètement asphyxié. Donc il me parle et lui, son but, il parlait comme ça à tout le monde, quoi. Il foutait la pression à tout le monde. Donc à un moment, il me parle, il m'appelle en fonction d'un compte rendu que j'avais envoyé et il commence à me faire des critiques sur le compte rendu en me disant ouais, là, t'aurais dû dire ci, t'aurais dû dire ça. Là, je trouve que c'est pas trop ce qu'il fallait dire, faut faire attention, on risque d'être mal par rapport au client, machin. Et il commence à lever la voix. Là, il monte dans les tours. Il monte dans les tours, puis commence littéralement à m'engueuler, et je raccroche. Et il me rappelle dans la foulée, et il me fait, tu viens de raccrocher là? T'es sérieux mec? Tu viens de raccrocher là? Et il commence à monter dans les tours, et je raccroche encore. Là, il me rappelle, je décroche, et il me dit, à quel jeu t'es en train de jouer? Là, je lui réponds, je vais être très clair, à chaque fois que tu lèveras la voix, je raccrocherai. Puis là, le mec, il pète un câble, il n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Il commence à me dire, écoute, je suis tel machin dans la boîte, je lève la voix si je veux, machin. Il commence à repartir dans les tours et je raccroche. Là, j'ai compris que j'avais atteint le point de non-retour et là, j'ai compris que j'avais commencé le jeu. Là, on avait commencé. Sauf que le mec en face, et c'est là où je voulais en venir, il n'avait pas réalisé qu'il était tombé sur une cinquième Dan. Le truc, c'est que moi, contrairement au mec d'avant, J'ai pas de gamin, j'ai pas un crédit qui me coûte une fortune, j'ai pas acheté de voiture, j'ai une trésorerie qui me permet de vivre plusieurs mois même si j'arrête de travailler. Financièrement, je suis à des années-lumière du petit salarié qu'il était en train de critiquer ou du petit salarié à qui il était en train de mettre la pression. Donc déjà, et c'est là où je voulais en venir en parlant de liberté financière, d'autonomie, déjà quand tu sais que si tu te fais virer, t'as plusieurs mois devant toi pour vivre, respirer, trouver un autre contrat. Quand tu sais que t'as personne à charge, que t'as pas d'enfants, de gamins, j'aurais deux, trois gamins, j'aurais réfléchi différemment. Là, j'ai que moi. Tu vois, même si je suis dans la rue, sous un pont, j'ai que moi à gérer. Donc, j'en ai rien à foutre. Et le mec, je me suis dit, toi, je vais te rentrer dans la gueule. Je vais te rentrer dans la gueule, mais d'une force. Je vais te rentrer dans la gueule comme le mec qui n'a rien à perdre. Donc, le mec, il me rappelle et je décroche encore. Puis là, il commence à me dire, écoute, là, faut qu'on arrive à parler, c'est pas possible, tu peux pas me raccrocher au nez à chaque fois que je te parle. Et bien sûr, il peut pas m'envoyer de mail parce que ce qu'il est en train de faire, c'est du harcèlement. Et le harcèlement, c'est quelque chose que tu peux faire qu'en isolant la personne et surtout en ne laissant aucune trace. Donc forcément, il va pas t'envoyer des mails en t'insultant parce qu'à ce moment-là, t'envoies ça à sa direction et il est fini. Surtout qu'il avait déjà des cas de harcèlement au cul. Donc il ne pouvait que faire ça verbalement. Et ça, c'est quelque chose que je savais. Donc il m'appelle et il me dit, écoute, on va arriver au point où je ne pourrai plus bosser avec toi si t'es pas prêt à écouter mes instructions. Et là, je lui fais So be it, qui veut dire ainsi soit-il. Si tu veux plus bosser avec moi, ben démerde-toi. Et il fait, ah oui, d'accord, c'est à ce jeu-là que tu veux jouer. Et là, c'est lui qui raccroche. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il raccroche? Il appelle mon directeur de projet. Et il lui dit, je le sais parce que c'est le directeur de projet qui m'en a parlé après, et il lui dit, écoute, ce mec-là, j'en peux plus. J'arrive pas à bosser avec lui, il est arrogant, il me répond. Et mon directeur de travaux lui dit clairement, je suis désolé, mais si on perd ce mec-là, il n'y a plus rien sur l'affaire, il n'y a plus personne. T'en as un qui est déjà parti en dépression, lui, c'est à peu près le seul qui connaît l'ensemble des affaires, c'est un peu le seul qui connaît l'ensemble du projet. Tu le vires, là je suis en slip, je sais plus quoi faire. Et pour le coup, tu as vraiment une chance que l'intégralité du projet, c'était un projet de 100, 110 millions de livres sterling, grosso modo, l'intégralité du truc peut partir en couille. Et mon directeur de projet lui dit, si tu veux le virer ou si tu veux terminer son contrat, ça ne sera pas avec ma bénédiction, ça sera quelque chose, tu prendras intégralement la responsabilité de ce truc-là, je ne serai pas ton allié dans ce truc-là. Le mec comprend que les choses sont un peu plus compliquées et surtout il comprend que s'il commence à virer des éléments qui sont jugés comme étant bons par tout le monde, on va commencer à comprendre que c'est lui le problème. Parce que tu vires une personne, deux personnes, on va se dire bon, ils n'étaient pas terribles dans leur taf, mais à un moment, tu vires 10 personnes et en plus tu vires des gens dont tout le monde pense qu'ils sont compétents, agréables, intéressants, utiles, tu commences à virer ces gens-là, à un moment, t'as le sommet de la pyramide, le CEO qui va t'appeler, qui va commencer à te demander des comptes. Donc qu'est-ce qu'il fait pour le coup? Il me rappelle et il me dit, écoute, c'est une semaine difficile, on va tout oublier, let's forget about everything. La semaine prochaine est une nouvelle semaine et on repart sur de bonnes bases. Et voilà comment je suis passé, grâce à ma liberté, grâce à mon autonomie, à un mec qu'on voulait virer parce que je suis rentré en confrontation directe avec la hiérarchie et parce que j'ai dit que je baisserais pas mon froc et parce que j'ai dit que j'étais prêt à partir. Encore une fois, la notion d'être prêt à partir. Tu ne pars pas, c'est pas pareil. Tu ne démissionnes pas, tu ne pars pas comme un voleur, tu ne baisses pas les bras, tu affrontes la situation et tu dis, je ne partirai pas, mais si tu me cherches, je suis prêt à rentrer en confrontation avec toi et si le résultat de cette confrontation, c'est de partir, je suis prêt à partir. Mais en tout cas, je me serais battu avant de partir. Et ce mec, malgré lui, s'est retrouvé entre moi et sa direction. Il s'est retrouvé dans une partie de ping-pong. C'était une balle de ping-pong entre moi et sa direction. Il savait plus quoi faire parce qu'il se retrouve avec un mec qui n'accepte pas sa domination, qui est rentré en confrontation directe avec lui. Mec dont il ne veut pas, mais un mec dont il ne peut pas se passer. Et il s'est mis tout seul, comme une merde, dans une situation pas possible. Mais la seule différence, c'est pas que je sois un surhomme, c'est pas que je sois un super-héros, c'est pas que je sois plus intelligent que le mec d'avant qui est parti en dépression. La seule différence, c'est que moi j'avais l'indépendance financière que le mec d'avant n'avait pas. Le mec d'avant, en perdant son emploi, avec les deux gamins à charge, la bagnole et la maison, il était dans la rue, il est en slip avec toute sa famille dans la rue. Moi, je n'avais pas ce problème, donc je pouvais prendre le risque de rentrer en confrontation avec ce mec-là, de lui rentrer dans la gueule et arriver à gérer la situation a posteriori si je m'étais fait virer. Parce que le risque, c'était ça. Le risque, c'était de me faire virer. Et la seule différence, c'est que moi, si je me fais virer, j'ai quelques mois d'économie, de trésorerie plutôt. C'est pas directement sur mon compte personnel, mais sur mon compte entreprise. Et mon entreprise peut continuer à me payer pendant que je ne travaille pas ou pendant que je cherche d'autres contrats. Donc, tu ne peux pas être un homme. Tu ne peux pas, parce que c'est facile de dire oui, il faut avoir les couilles, rentrer en confrontation. Tu peux avoir les plus grosses couilles du monde. Si tu as zéro sur ton compte, que tu n'as aucune indépendance financière et tu sais que si tu perds ton boulot, ben tu es dans la rue, tu es sous les ponts, ben ta fierté, tu la ravales et tes couilles, tu les rétrécis, tu les remets dans ton froc et t'en parles plus. Le courage est beaucoup plus facile quand derrière, tu as la logistique, tu as la stabilité financière, tu es beaucoup plus apaisé quand tu as la liberté financière pour rentrer en confrontation avec le monde que quand tu es en slip et que tu n'as pas d'économie. Donc, pour résumer la masculinité, tu ne peux pas être un homme complètement accompli si tu ne te donnes pas les moyens de partir à tout moment, que ce soit dans ta vie émotionnelle ou dans ta vie professionnelle. Si à un moment, t'es pas capable de dire merde à une femme, je pars en Australie, si tu veux m'attendre, tant mieux, si tu ne veux pas m'attendre, tant pis. Si à un moment, t'es pas capable de dire à ton patron, voilà mes conditions, je veux travailler pour toi, mais tu dois me respecter, c'est mes conditions, si tu es d'accord avec, tant mieux, si tu n'es pas d'accord avec, tant pis. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas un homme, tu seras une larve, une petite pute, une petite soumise à tout ce qu'il y aura au-dessus de toi. Soumise aux femmes, tu seras une soumise à l'entreprise, tu seras une soumise à l'État, tu seras une soumise aux impôts, tu seras une soumise aux taxes, tu seras une soumise à tout ce qui t'entoure. Donc éduque-toi sur la création d'entreprise, éduque-toi sur les impôts. Le système te baise uniquement parce que tu ne sais pas comment gérer tes impôts. Pourquoi les salariés payent 45-50% d'impôts et pourquoi les libéraux payent 7,5%, du moins en Angleterre, 7,5% d'impôts sur les dividendes? Tu imagines, quand un salarié gagne 10 000, il paye 5 000 euros d'impôts. Quand moi je gagne 10 000, je paye 750 euros d'impôts. Pourquoi? On fournit le même travail, on fournit la même énergie. Eh bien, j'ai eu l'intelligence de m'intéresser à la création d'entreprise, j'ai eu l'intelligence de prendre un bon comptable, j'ai eu l'intelligence de passer des heures sur Internet pour comprendre comment fonctionne l'impôt, à combien est taxé le salaire, à combien sont taxés les dividendes, quel est le meilleur équilibre salaire-dividende. Et c'est le moyen que j'ai trouvé pour ne pas me faire baiser par les impôts. Il n'y a que l'éducation qui vous sortira de la soumission. Il n'y a que le savoir et l'éducation qui te sort de la soumission. La seule différence entre les gens qui réussissent, les gens qui ne se font pas baiser par le système, et toi, c'est que eux se sont éduqués sur ces histoires-là, sur ces questions d'impôts, de taxes, d'entrepreneuriat, d'investissement, et toi, tu ne t'es pas éduqué. Donc, éduquez-vous. Arrêtez d'être des soumises et règle d'or, sois prêt à partir à tout moment. La seule relation viable et durable et qui mérite d'être vécue, c'est la relation où tu peux partir à tout moment, que ce soit dans ta vie affective ou que ce soit dans ta vie professionnelle. Sois à tout moment prêt à partir. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.